Bonjour, bonjour. Attention, aujourd'hui nous allons interviewer Frédéric Courant, qui, si vous ne le savez pas déjà, est connu par son émission C'est pas sorcier.
Quel cursus scolaire avez-vous choisi? Quelles études avez-vous faites?
Alors, j'ai fait des études qui ne sont absolument pas scientifiques. J'ai fait un bac économique et ensuite j'ai fait des études de droit international. J'ai fait un DESS de droit international. Mais ce qui m'a amené au métier de journaliste, c'est tout simplement ce sont les stages que je faisais quand j'étais étudiant. J'adorais ce métier de journaliste, donc je me débrouillais toujours pour travailler dans des radios, dans des journaux et puis ensuite à la télé. Voilà, voilà, c'est comme ça en fait.
Comment le programme C'est pas sorcier a vu le jour?
Un peu par hasard, c'est-à-dire que moi j'ai commencé dans la presse écrite, ensuite j'ai commencé dans des petites chaînes de télé qui se lançaient sur le satellite en France. C'était le début des chaînes télé sur le satellite. Et donc j'ai appris en fait la télé un peu sur le terrain. Et je suis venu aider une équipe à France Télévisions qui lançait un magazine scientifique. Je ne connaissais pas du tout les sciences, mais je connaissais un peu la télé alors qu'eux connaissaient les sciences mais n'avaient quasiment pas fait de journalisme. Donc on m'a demandé de les aider et on a lancé cette émission. Qui s'appelait Fractal, qui était un peu raide, un peu compliqué en réalité. Et puis au bout d'un an, il y a un responsable de chaîne qui m'a demandé si je voulais pas créer une nouvelle émission. Et comme je connaissais déjà Jamy avant, je lui ai proposé qu'on s'associe et c'est comme ça qu'on a écrit Sur un coin de table, c'est pas sorcier en fait. Quand je dis Sur un coin de table, c'est vraiment comme ça, c'est au restaurant, on s'est dit tiens, on va faire comme ça, on a un beau camion, toi tu fais des manips et moi je fais du reportage à l'extérieur. Voilà.
D'accord. Alors, qu'est-ce que ça fait de passer à la télévision ?
Ça fait pas mal. Normalement, ça dépend. Il y en a qui ça fait mal. C'est un travail comme un autre. Je veux dire, quand t'es journaliste, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas trop de passer à la télévision. C'est de faire des enquêtes, de faire mon métier de journaliste, d'aller rencontrer des gens. Enfin, moi, je suis plus un journaliste de terrain qu'un journaliste de studio. Aujourd'hui, le journalisme, il est beaucoup en studio pour des problèmes de moyens aussi, parce que le terrain, ça coûte cher, faut se déplacer, faut voyager, etc. Donc, dommage pour les plus jeunes journalistes qui ont tendance un peu trop à rester en desk, comme on dit. Moi, j'ai fait vraiment ce métier-là pour rencontrer des gens, pour découvrir des pays, pour en apprendre tous les jours. Que ce soit à la télé ou à la radio, ça m'est un peu égal. Sauf que j'ai bien conscience qu'à la télévision, quand même, il y a une image et que ça peut devenir contraignant aussi à un moment donné de se traîner une image toujours derrière soi. L'essentiel, c'est de faire un métier parce qu'il nous plaît, pas trop pour se montrer, ça c'est différent. Mais il y a ce métier-là, il y en a beaucoup.
Que faites-vous maintenant dans la vie? À quoi consiste votre métier?
Je fais toujours le même métier, je suis journaliste, mais comme l'émission s'est arrêtée, et nous, avec toute une partie de l'équipe de C'est pas sorcier, on avait envie de continuer à travailler dans le même créneau, parce que d'une part, ce que je vous disais, ce sont des métiers qu'on aime. Deuxièmement, moi j'ai fait pendant 20 ans une émission, je pense, qui a appris, pas tout seul, hein, avec toute une équipe, qui a appris à pas mal de gens, de jeunes notamment, à s'intéresser aux sciences. On avait envie de continuer sur cette lancée, donc on a créé un site qui s'appelle L'Esprit Sorcier, qui est un site qui est un petit peu notre vitrine, sur lequel on sort des dossiers pédagogiques, on va dire, on appelle ça comme ça, c'est un peu rigide, mais un peu comme ce qu'était l'émission C'est pas sorcier avant. Mais en même temps, ça nous permet de produire. Donc le site, c'est un peu notre vitrine, mais en même temps, on continue de produire, on produit des programmes scientifiques qui ont différentes formes, pour des chaînes de télévision qui ne sont pas France Télévisions, mais qui sont Sciences et Vie TV, qui sont des chaînes étrangères, etc., etc. Et on a aussi notre diffusion sur le net, et le net a un inconvénient, c'est qu'il faut trouver les équilibres budgétaires dessus, mais ça a un énorme avantage, c'est la liberté. Donc voilà.
Donc votre nouvelle émission, L'Esprit Sorcier, semble s'adresser à un public plus âgé. Est-ce voulu ?
C'est peut-être une évolution normale, c'est-à-dire que sur le net, on peut avoir des écritures qui sont différentes de la télévision. À la télévision, on va vous dire, par exemple, à un moment donné, il faut avoir une cible. Donc quand on a créé C'est pas sorcier, la cible, c'était... qui a évolué d'ailleurs après, parce que il y avait de plus en plus de jeunes, mais c'était 8 ans, 15 ans. Puis ensuite, c'est devenu une émission qui a été regardée par toute la famille. Mais on est obligé de rester sur une cible principale en télé. Alors que sur Internet, vous pouvez traiter des rubriques de façon à des niveaux différents. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des animations qu'on fabrique qui sont un peu l'équivalent de nos maquettes avant, qui sont accessibles à des jeunes et à des moins jeunes, qui donnent le béaba pour comprendre les choses. Ce sont des animations comme avant, c'était les manips de Jamy. Et ensuite, par contre, il y a des rubriques où on peut aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'ici, là, aujourd'hui, Au lycée, avec les premières, avec les terminales, on va parler de génomique. Donc la génomique, bah, on peut parler des gènes, etc. On a tout ça. Mais ça emmène aussi vers une discussion éthique, de savoir si demain, on peut avoir le génome de tout le monde sur une clé USB pour 400 euros et fait en 24 heures, ça pose aussi des problèmes éthiques. Et c'est intéressant parce que la science, elle n'est jamais déconnectée de la société et des problèmes de société. Et ça, sur Internet, on peut le traiter. Alors qu'avant, je n'avais pas la place de le traiter dans C'est pas sorcier, tout simplement. Donc c'est un format qui est un peu différent, où il peut y avoir différents niveaux de lecture. C'est ce qui est particulièrement intéressant sur Internet, je trouve.
Le choix de garder la petite voix dans votre émission était-il personnel ?
Oui, c'est parce que importante. Il y a des ingrédients qui sont importants. Il y a peut-être les présentateurs, mais il y avait le camion, évidemment, la petite voix qui nous accompagne depuis le départ. Et c'est important, une voix. Et c'est elle qui a ce côté un petit peu candide, mais qui sait parfois aussi, qui a la connaissance, donc qui nous promène comme dans C'est pas sorcier, qui commentait les reportages qui nous emmenaient aussi pas mal à l'étranger quand moi je pouvais pas y aller. Oui, c'est important, ça fait partie des points de repère. Je crois qu'on a besoin d'un petit peu de points de repère, donc c'est important, ouais. Ouais, puis on s'adore, donc voilà, ouais. Voilà, vous la connaissez pas, la petite voix, mais elle est adorable.
Donc, connaissez-vous le sujet de toutes vos émissions et dossiers en partant de C'est pas sorcier, en allant à l'esprit sorcier, en passant par l'émission historique Quelle aventure ? On parle environ de 500 épisodes pour C'est pas sorcier. En comptant tout, vous en avez fait combien à peu près ?
Ah, c'est vrai que ça fait un paquet. Alors en fait, ça fait, je sais plus, c'est 560 ou 570 pour C'est pas sorcier. 560, je crois. C'est pas sorcier. 12... Quelle aventure ! Alors c'est une émission passionnante parce que c'était des numéros plus longs que C'est pas sorcier, que j'écrivais complètement avec un ami et avec des historiens. Plus là, ouais, tout ce qu'on fait, ça commence à faire pas mal d'horaires de production. Alors pour être clair, je pense qu'on est un peu comme les ordinateurs ou peut-être moins performants même, il faut décharger le disque dur à un moment donné. Donc c'est vrai que je pense que automatiquement le cerveau il fait une sélection et il enlève les informations qui sont pas essentielles. Mais ça permet d'acquérir une sorte de culture. Moi, j'étais pas scientifique au départ et je pense avoir acquis, comme les autres personnes, journalistes qui bossent avec nous, une culture scientifique. C'est-à-dire au moins comprendre les grands concepts. Je serai jamais un biologiste, je serai jamais un volcanologue, mais je connais beaucoup de choses sur les volcans, pas mal de choses en biologie, etc. Donc ça me permet de comprendre des grands concepts. Donc toutes ces émissions, elles enrichissent. D'ailleurs, c'est l'intérêt de ce métier. Ceux qui ont envie de faire ce métier de journaliste, la plus belle richesse, c'est qu'on apprend tous les jours beaucoup de choses de la part des autres, parce qu'on est là en plus pour transmettre, donc on est obligé de comprendre ce qu'un scientifique va nous raconter pour le raconter ensuite au public. Donc oui, on retient quand même des grands concepts, mais il y a des choses qu'on doit mettre aussi un petit peu à la corbeille, comme on dit, parce que sinon ce serait pas possible, je crois que le cerveau tiendrait pas.
Donc notre dernière question, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la vulgarisation scientifique ?
Nous déjà, parce qu'on n'était pas scientifiques, donc pour réussir à faire une émission scientifique accessible à tous, il fallait déjà qu'on comprenne. Et on était déjà un bon étalon, vous voyez, un outil de mesure. Si... Alors Jamy non plus n'est pas scientifique, il a une formation de journaliste. Moi, je vous l'ai dit, j'ai fait des formations de droit international. Mais ça nous intéressait quand même beaucoup d'essayer de comprendre. Et pour expliquer aux gens, pour expliquer au grand public, la première chose, c'est quand même la moindre des choses, c'est de comprendre soi-même. Donc ça, c'est ce qui nous a donné vraiment envie de faire de la vulgarisation pour pouvoir accéder à la connaissance, pour pouvoir comprendre les grands principes. Après, on peut devenir beaucoup plus pointu. De toute façon, la vulgarisation, elle n'a pas pour but d'apprendre des choses, elle a pour but de faire découvrir, de donner des envies, c'est l'essentiel. D'ouvrir des horizons, et donc avec les horizons, d'ouvrir la liberté, quoi, tout simplement, et une liberté de penser aussi, c'est-à-dire une liberté de pouvoir se dire « Ah ça c'est intéressant, et ça j'ai envie de l'approfondir », voilà, c'est fait pour ça, je crois, la vulgarisation. C'est pas un joli mot, il y a beaucoup de personnes qui veulent pas l'utiliser, moi il me gêne pas du tout, moi l'essentiel c'est que ça ouvre l'esprit à beaucoup de choses et que ça rende un petit peu plus libre pour comprendre le monde.
D'accord.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Ah, avec plaisir.
C'est Flash Info à 3 sur Shanghai H24.